Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis quelques jours, nous avons entendu parler de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Mon discours présent s'inscrit à la suite et dans la ligne de ce que vous avez entendu. Quand on croit, comme je le crois moi-même, à la pleine inspiration et à la pleine autorité de la Sainte Écriture, puisqu'elle est la parole de Dieu, on n'est pas parvenu à un point d'arrivée, mais on se trouve à un point de départ, sinon au tout premier point de départ, du moins au point de départ d'une nouvelle étape. Je voudrais aujourd'hui, non pas du tout vous parler comme à nouveau de tout ce qu'est et représente pour nous l'Évangile, le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Vous permettrez ce soir de considérer cela comme acquis. Et je pose la question, qu'est-ce que l'Église a pour mission de proclamer avec l'Évangile et à la suite de l'Évangile? Je ne voudrais pas que mon silence sur les questions fondamentales du salut puisse faire penser à quiconque ici que cette question du salut n'est pas primordiale pour moi et primordiale pour l'évangélisation. Mais c'est volontairement que je laisse de côté ce soir toute la question, j'allais dire, de l'Évangile, pour m'attacher à la seule question de la loi. Maintenant, il faut tout de même préciser les choses. La parole de Dieu tout entière, depuis les premiers versets de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, la Sainte Écriture tout entière est évangile. L'évangile ne se trouve pas contenu dans quelques versets tirés de l'Écriture, et même dans quelques versets qui ne seraient tirés que du Nouveau Testament. Toute l'Écriture sainte, je le répète, du commencement à la fin, proclame l'Évangile. Pour bien savoir ce qu'est la bonne nouvelle du salut, pour bien connaître l'histoire du salut qui est en Jésus-Christ, il faut peu à peu connaître la Bible tout entière, sonder de plus en plus l'Écriture. Toute l'Écriture nous dit de plus en plus, de mieux en mieux, ce qu'est l'Évangile. Mais également, toute l'Écriture, de la première ligne à la dernière ligne, nous dit quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend des hommes, ce que Dieu attend de nous. Dieu nous donne dans la Sainte Écriture sa loi, en même temps qu'il nous donne son Évangile. Et la loi, ce ne sont pas tels ou tels commandements que nous pourrions tirer, soit de l'Ancien Testament avec le Décalogue, soit dans le Nouveau Testament avec, par exemple, le Sermon sur la montagne. Non. Bien connaître la loi de Dieu, bien percevoir la loi de Dieu, c'est percevoir l'Écriture sainte tout entière. On pourrait dire que toute la Bible est Évangile, et que toute la Bible est loi, et que nous devons embrasser la Bible comme étant ensemble, à la fois, inséparablement, évangile et loi, loi et évangile. La loi de Dieu n'est rien autre que le reflet des perfections de Dieu. Si Dieu est saint, sa loi est sainte. La loi de Dieu contribue à l'image que nous devons, non pas nous faire de Dieu, mais recevoir de Dieu. Si la loi de Dieu nous interdit de nous fabriquer une image de Dieu, de nous faire une image de Dieu, elle nous invite à recevoir l'image de Dieu. Autrement dit, nous ne pouvons pas éviter d'avoir une image de Dieu. Le tout, c'est de savoir si nous avons une image de Dieu que nous nous fabriquons, ou si nous acceptons de recevoir l'image que Dieu nous donne lui-même de lui dans sa parole. Et la loi de Dieu contribue, avec l'Évangile, à nous donner la vraie image de Dieu, la juste image de Dieu, du Dieu qui est saint, du Dieu qui est juste, du Dieu qui est miséricordieux, du Dieu qui s'est révélé et qui ne cesse de se révéler dans sa parole. Alors, je voudrais que nous élargissions en quelque sorte cet après-midi l'idée que nous nous faisons de la loi de Dieu, que nous ne bornions pas la loi de Dieu au seul commandement de Dieu. Les commandements font partie de la loi de Dieu, mais la loi de Dieu n'est pas que dans les commandements que Dieu nous donne. Simplement, quand Dieu se révèle à nous comme celui qui est saint, eh bien ça y est, il y a déjà une certaine image de Dieu que nous donne la parole de Dieu, mais en même temps une image de la loi. En fait, si toute la Bible est parole de Dieu, cette parole de Dieu tout entière évangile, cette parole de Dieu tout entière loi, peut être perçue dans deux perspectives. La perspective que j'appellerai de la morale et la perspective que j'appellerai du droit. Et je voudrais, avant de continuer, vous lire deux passages de l'Écriture. Je ne vous en donnerai pas les références parce que je ne désire pas que vous ouvriez vos Bibles. Si vous voulez, vous pourrez vérifier après coup si j'ai bien lu l'Écriture, mais je préfère que vous écoutiez parce que nous perdrions peut-être du temps à ce que vous cherchiez dans vos Bibles ces deux passages. Le premier passage se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 42. Je ne vais pas plus loin dans ma référence. « Voici mon serviteur, mon élu. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. » Il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles, c'est-à-dire les pays les plus lointains, s'attendent à sa loi. Le Christ, le Messie de Dieu, la parole de Dieu nous révèle le droit. Et ce droit n'est pas seulement pour quelques-uns, ce droit n'est pas seulement pour Israël, c'est un droit qui est pour toutes les nations. Il révélera le droit aux nations. L'autre passage se trouve dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas besoin de donner ici la référence tout à fait exacte. Vous vous y reconnaîtrez tout de suite, vous allez voir. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si j'ai rapproché ces deux passages, c'est que, pris ensemble, ces passages nous montrent bien que la loi de Dieu concerne la morale et le droit. Au fond, c'est par la parole de Dieu, c'est par la loi de Dieu, disons, c'est par la parole loi de Dieu, que nous pouvons apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est aussi par la même parole droit, de loi de Dieu, que nous apprenons ce qui est juste et ce qui est injuste. En fait, nous sommes, vous le savez, dans un monde où l'humanisme, la religion de l'homme, la religion de l'homme s'adorant lui-même, ne cesse d'accomplir ses ravages. Et l'on parle bien sûr un peu partout de la dégringolade morale, mais il faut bien voir qu'il y a non seulement une dégringolade de la morale, mais il y a en même temps et forcément une dégringolade du droit. Et cela pour une raison très simple, c'est qu'il y a toujours un rapport étroit entre la morale et le droit dans une société donnée, quelle qu'elle soit. Il y a un rapport très étroit entre la morale et le droit. Lorsque dans un pays les mœurs dégénèrent, lorsque les principes moraux vont à la dérive, on a en même temps, presque aussitôt, une dérive du droit. Si bien que le domaine des fautes personnelles et le domaine public, si j'ose dire, du droit, sont étroitement liés. Lorsque le droit lui-même commence à céder, à dégringoler, il entraîne à nouveau une dégringolade plus accentuée de la morale et des mœurs. Et cette dégringolade plus accentuée de la morale et des mœurs va entraîner une dérive encore plus accentuée du droit. Et il n'y a pas de raison pour que ça finisse. Et nous sommes actuellement sur cette pente qui ne peut aboutir forcément qu'à l'anarchie, au désordre généralisé, ou bien alors à l'état totalitaire. Et nos sociétés sont en ce moment face à la menace prochaine, soit d'une anarchie générale, soit du totalitarisme. Et comme l'anarchie générale n'est supportable qu'un très laps court de temps, il va y avoir forcément alors le triomphe de l'état totalitaire. Et je pense que, comme chrétiens, nous devons être attentifs à cette perspective, je dirais, sociale et politique de mon discours. C'est très important de bien voir que tout se tient étroitement. Le péché de l'homme a des conséquences personnelles, des conséquences interpersonnelles dans les rapports entre les personnes, et des conséquences sociales et politiques. On se trouve là devant un ensemble où tout se trouve imbriqué. Et nous devons, comme chrétiens, prendre garde à l'importance de la morale et du droit. Et c'est ici que se pose la question, mais qui peut dire le bien et le mal? C'est-à-dire, qui peut dire la morale? Qui peut dire le juste et l'injuste? C'est-à-dire, qui peut dire le droit? Vous vous souvenez que le livre de la Genèse nous montre qu'à l'origine de notre histoire, un événement s'est produit. Mais cet événement redoutable qui s'est produit et qui est la chute, c'est un événement qui a suivi une interdiction précise de la part de Dieu. Dieu a ouvert aux hommes le champ immense, magnifique, de tous les développements des sciences et des arts. L'homme s'est trouvé placé dans l'univers avec toutes les possibilités que Dieu lui permettait et même que Dieu lui ordonnait. Il avait à cultiver et à garder la création, il avait à nommer les créatures, il avait à développer une culture, non seulement dans le domaine de l'agriculture, mais dans tous les domaines de la culture, c'est-à-dire, je le répète, dans le domaine de tous les arts et de toutes les sciences. Mais une chose était interdite à l'homme, c'était de définir le bien et le mal. C'était de définir le juste et l'injuste. Il n'y a pas de morale en dehors de la morale de Dieu. Il n'y a pas de droit en dehors du droit de Dieu. Toute morale hors la morale de Dieu est immorale, et tout droit en dehors du droit défini et révélé par Dieu est un non-droit. Or, le péché a consisté en cette usurpation. L'homme a voulu définir ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme a voulu définir ce qui est juste et ce qui est injuste. L'homme a voulu rejeter la morale et le droit de Dieu et s'inventer une morale, ou plutôt des morales, et s'inventer un droit, ou plutôt des droits. Et cela, c'est précisément ce que Dieu lui avait interdit. Tout était permis à l'homme, sauf cela. Et en faisant cela, c'est-à-dire en prenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en voulant se mettre à la place de Dieu pour définir le bien et le mal, c'est-à-dire la morale, le juste et l'injuste, c'est-à-dire le droit, alors l'homme entrait dans la voie de tous les désordres, de tous les malheurs, et finalement, il entrait dans la voie de tous les péchés et de tous les crimes. Si nous prenons bien conscience de cela, nous prenons conscience d'un manque de la part de l'Église. L'Église a été désignée par Jésus-Christ comme sel de la terre et comme lumière du monde. Parce que l'Église sait et connaît par la révélation spéciale, particulière de Dieu, qui est la Sainte Écriture, la morale de Dieu et le droit de Dieu. La Sainte Écriture, c'est certes le livre de l'Évangile, et nous avons à proclamer l'Évangile, mais c'est aussi le livre de la loi, et nous avons à proclamer la loi. Et nous avons besoin de la loi, comme nous avons besoin de l'Évangile. Et d'ailleurs, l'Évangile, c'est un mot qui ne veut rien dire s'il est entendu hors la loi. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu vivre la loi. Il est venu accomplir la loi. Et il est venu, parce que la loi condamne les pécheurs, se substituer aux pécheurs et connaître l'enfer de la séparation d'avec Dieu. Il a pu s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'il a connu le poids de la condamnation, de la punition du péché, condamnation et punition dont il s'est chargé pour nous sauver. Et donc, si l'on parle de l'évangile sans parler de la loi, on ne parle pas de l'évangile. Il n'est pas possible de parler d'évangile sans parler de la loi. Et il n'est pas possible non plus que l'homme retrouve vraiment le sens de la morale et le sens du droit si l'Église, qui est sauvée par Jésus-Christ, ne lui communique pas aussi la loi de Dieu. En fait, par sa grâce générale de patience, de prévenance, Dieu a quand même inscrit dans le cœur de tout homme quelque chose de l'œuvre de la loi. Les hommes ne se trouvent jamais sans avoir une certaine connaissance de la loi de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul expose dans les deux premiers chapitres de sa lettre aux Romains. Oui, il y a au cœur de tout homme quelque chose de l'œuvre de la loi qui se fait connaître. Et c'est pourquoi, quel que soit le pays, dans quelques siècles que ce soit, il y a un minimum de loi de Dieu qui permet au genre humain de poursuivre son histoire, qui permet au genre humain d'attendre le moment où Dieu aura rassemblé dans son Église toute la multitude innombrable pour nous de ceux que Dieu, par pure grâce, entend sauver. Donc, il y a quelque chose de la loi de Dieu qui opère dans le cœur de tout homme et ainsi aussi au sein de toute nation, de tout peuple, de toute tribu. L'homme n'est jamais laissé seul à lui-même, il n'est pas livré à l'intensité du péché, mais Dieu limite en quelque sorte cette intensité du péché en faisant connaître à tout homme quelque chose de sa loi, ce qu'il faut que les hommes sachent de sa loi pour qu'un minimum d'humanité soit encore possible et pour que l'histoire de l'humanité puisse continuer. Et nous devons être reconnaissants à Dieu pour cette grâce générale, cette grâce universelle, qui n'est pas, je le répète, une grâce de salut, au sens du salut éternel, mais qui est d'une certaine façon une grâce de salut, au sens d'un certain salut, d'une certaine santé temporelle. Il y a une grâce générale de Dieu qui opère dans le cœur de tout homme, qui opère dans tous les temps et dans tous les peuples, pour que l'histoire puisse se continuer. Mais cela ne suffit pas aux nations. Et l'Église, elle, sait qu'il y a la loi de Dieu, la loi révélée, la morale révélée, le droit révélé. Et l'Église doit sans cesse rappeler aux hommes, en même temps qu'elle leur annonce l'Évangile, quelle est cette volonté de Dieu exprimée par la morale révélée et par le droit révélé. C'est important, en notre temps, de bien saisir que tout se tient Le combat contre l'avortement, par exemple, certes, c'est un combat que nous devons mener. Mais je dirais, il faut bien voir que pour comprendre en quel sens l'avortement est un péché et même est un crime, il faut bien voir que cela tient à ce que Dieu nous dit de la personne humaine, à savoir que l'être humain existe dès l'instant de la conception. Il faut savoir cela. Or, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. Mais l'avortement, c'est un point. Et c'est un point, évidemment, qui porte atteinte au caractère sacré du mariage, au caractère sacré de la famille. Il faut bien voir que tout se tient là. Aujourd'hui, il y a une crise du mariage. Elle est indiscutable. Beaucoup de nos contemporains n'ont aucune idée, maintenant, en 1985, du sens du mariage, de ce qu'est un mariage. Ils ne savent plus du tout ce que doit être dans une véritable union. Les rôles à la fois respectifs et conjoints de l'homme et de la femme. Qui sait ce qu'est un mariage? Les gens ne le savent plus s'ils l'ont su un jour. Mais dans la famille, c'est la même chose, je veux dire, dans le rapport entre les parents et les enfants. Il y a une crise de la famille, on en parle aussi. Mais cette crise du mariage, cette crise de la famille, ne sont qu'une partie de tout l'ensemble. En effet, prenez l'exemple, par exemple, de ce qu'on appelle le code civil. Le code civil. Or, le code civil est en train de s'effriter peu à peu. Je ne dis pas du tout que le code civil que nous avions était le meilleur code civil possible. Mais c'était un code civil dans lequel avait apporté tout un ensemble la révélation chrétienne. Or, à partir du moment où l'on n'a plus l'enseignement ferme de la loi de Dieu concernant, je le répète, la personne humaine, concernant le couple dans le mariage, concernant la famille, les lois qui vont être promulguées au sujet du mariage et au sujet de la famille vont subir d'autres influences, ou plutôt des influences d'autres religions, que de la foi chrétienne, que ce soit l'influence, mettons, du marxisme, ou l'influence de l'individualisme, ou l'influence, que sais-je, de telle ou telle autre idéologie, ou idéologie. Et c'est ce que l'on voit, c'est un phénomène que l'on voit dans notre pays, en France, je ne sais pas si l'on le voit autant dans un pays comme la Belgique, ou si on le voit autant dans un pays comme la Suisse, mais en tout cas je puis vous affirmer comme Français, qu'en France, c'est ce qu'on voit. Là où l'on ne sait plus ce qu'est la personne humaine, là où l'on ne sait plus ce qu'est le mariage, là où l'on ne sait plus ce qu'est la famille, le code civil va se trouver chamboulé. Et c'est inévitable. Il y a un rapport étroit, je le répète, entre la morale et le droit. Et il y a cette cascade en dégringolade dont je vous parlais tout à l'heure. La morale s'affaiblit, du coup le droit s'affaiblit, parce que le droit s'affaiblit, la morale s'affaiblit encore, et ainsi de suite. Or, l'Église et les chrétiens ont une tâche importante. Je vous pose la question, dans l'évangélisation, dans le témoignage, engagez-vous la conversation sur ces questions de la personne humaine, du mariage, de la famille, c'est-à-dire, est-ce que, avec l'Évangile, vous apportez la loi de Dieu? Est-ce que vous voyez bien qu'il est très important de ne jamais prêcher l'Évangile sans la loi, d'avoir une espèce d'Évangile, sinon anti nomiste, c'est-à-dire contre la loi, du moins anomiste, c'est-à-dire sans la loi. Et je me demande vraiment, quelquefois, en écoutant certains évangéliques ou en lisant certains ouvrages rédigés par des évangéliques, on a bien perçu la chose. Je vois bien l'évangile, mais je dirais un évangile qui n'a plus grand-chose à voir avec l'évangile biblique, parce que c'est un évangile qui se situe en dehors, j'allais dire, de la compagnie ou du contexte de la loi. On parle tout le temps d'annoncer l'évangile. C'est sûrement pas moi qui dirais qu'il ne faut pas annoncer l'évangile. Mais j'ai toujours envie de demander de quel évangile il s'agit. Parce que s'il s'agit d'un évangile antinomiste, qui consiste à dire crois en Jésus-Christ, et puis le reste n'a aucune importance, tu seras sauvé, on est complètement en dehors de l'annonce de l'évangile. L'évangile a à voir avec la loi. Et, je le répète, si notre prédication est une prédication d'évangile sans loi, ça n'est plus une prédication d'évangile. Il faut aller un peu plus loin ici. L'avantage qu'a la loi de Dieu, c'est-à-dire la Bible reçue tout entière comme loi en même temps qu'évangile, c'est que c'est une parole terrienne. Je m'explique. Si nous appartenons à Jésus-Christ, si nous sommes unis à lui par une vraie foi, nous sommes citoyens des cieux. Mais nous sommes des citoyens des cieux sur la terre. Nous sommes des citoyens de Dieu sur la terre, et c'est sur la terre que pour le moment, du moins, même si pour moi maintenant le moment doit plus être très long, c'est sur la terre que nous sommes, et c'est ici-bas que nous devons être chrétiens. Et c'est ici-bas que nous avons à mener notre vie. Or, mais y prêtons-nous assez attention? La loi de Dieu, qu'est la Sainte Écriture, elle nous parle d'un tas de choses qui nous importent au premier chef, parce que c'est notre vie quotidienne dont il s'agit. C'est très important que je sache comment je dois être le mari de ma femme, ou comment je dois essayer de devenir un meilleur mari pour ma femme. La loi de Dieu me le dit. Et comment je dois être un meilleur père pour mes enfants? C'est la Bible qui me le dit. Mais elle ne touche pas seulement à ces questions. La Bible touche à des questions, je vais dire, on dit souvent les questions matérielles, les questions de porte-monnaie. Quelquefois, il y a des pasteurs qui s'excusent, quelquefois, de parler de questions d'argent. Mais on a besoin d'argent ici. Bah, or, la Bible nous parle d'argent. Elle nous parle du crédit. Elle nous parle de l'intérêt. Elle nous parle de ce qui est permis dans le domaine du crédit et de ce qui est permis dans le domaine de l'intérêt. La loi de Dieu s'intéresse à la question de notre argent, de l'usage que nous devons faire de notre argent. Et la Bible nous éclaire sur ce que peut être notre travail. Il y a des paroles de l'Écriture sainte qui sont très nettes au sujet de ce que doit être un fonctionnaire, au sujet de ce que doit être un commerçant, au sujet de ce que doit être un gardien de l'ordre ou un soldat. C'est la Bible qui nous dit cela, qui nous parle de cela, qui entre dans les détails au sujet de cela. Vous savez, il y a une expression que nous connaissons tous, sola scriptura, l'écriture seule. J'ajoute toujours, ce scriptura sola ne me satisfait pas. Je suis bien d'accord, scriptura sola, mais à condition, c'est-à-dire l'écriture seule, mais à condition qu'on ajoute aussitôt scriptura tota, toute l'écriture. Parce que, avec scriptura sola, on peut faire ce qu'on veut. Je peux prendre dans l'écriture ce qui me plaît dans l'écriture, et puis laisser tomber le reste. Alors on se trouve avec des bibles rognées, des bibles, c'est curieux. J'ai toujours l'impression que nous ne nous rendons pas compte que si Dieu nous a donné cet ensemble de livres qui constituent la Bible, c'est pour que nous prenions garde à la totalité de cette parole, à la totalité de cette révélation. Or, il y a des livres entiers. Je ne dirais pas que nous ne les lisons pas. Nous arriverions même à les lire par devoir. Même si certaines pages nous embêtent. Ah, c'est la parole de Dieu, il faut quand même que je le lise. Mais non, nous n'avons pas une attitude juste vis-à-vis de la parole de Dieu en procédant ainsi. Si Dieu l'a dit, c'est bien pour quelque chose. Et si Dieu l'a dit, c'est que cela importe à ma vie, c'est que cela importe à notre vie, c'est que cela est pour aujourd'hui, pour ma vie sur la terre. Bien sûr, nous avons l'espoir d'être avec le Christ. Je vais bientôt mourir, j'espère bien être avec lui. Bon, mais en attendant d'être avec lui, je suis là, ici-bas. Et d'ailleurs, ça posait une sacrée question à l'apôtre Paul, parce qu'il se demandait lequel des deux il valait le mieux souhaiter. Puis finalement, il a vu qu'il fallait qu'il souhaite rien du tout. Et puis qu'il se dise, eh bien, je dois continuer à faire ce que j'ai à faire ici-bas. Mais continuer à faire ce que j'ai à faire ici-bas, qu'est-ce qui va vraiment me le dire ? Alors, il y a des gens qui disent là, oh ben, si je suis chrétien, c'est le Saint-Esprit qui m'inspirera. Vous savez, l'esprit détaché de la parole, on peut se poser vraiment la question si c'est le Saint-Esprit. De même qu'on peut se demander si un évangile séparé de la loi, c'est bien encore l'évangile. L'évangile va avec la loi. Et l'Esprit Saint va avec la parole. L'Esprit Saint me dit dans l'Écriture et par l'Écriture ce qu'il veut que je fasse. Et l'Esprit Saint nous dit dans la Sainte Écriture quelle est la morale révélée et quel est le droit révélé. Alors, j'attire votre attention, frères et sœurs, sur ce point. Je m'excuse d'y revenir. Vous savez, on dit toujours que la communication doit être quelquefois répétition. Et j'ai été professeur, j'ai d'abord été père de famille, j'ai été professeur. Je me suis aperçu de l'importance qu'il y avait quand même à répéter pour que ça rentre bien. Alors, disons, il faut que nous prêtions attention à la totalité de l'Écriture. La Torah. Les cinq premiers livres de la Bible, ce que nous appelons le Pentateuque, quelquefois. La Torah, c'est très important. Et c'est pas seulement important dans le dialogue que nous devons avoir avec Israël. Mais c'est très important parce que Dieu nous révèle là l'essentiel de sa loi. Si vous remarquez après, dans les livres qui suivent, les prophètes n'ont rien ajouté à la loi de Dieu. Ils ont cherché à faire revenir le peuple de Dieu, qui était alors Israël, à la Torah. La loi, elle est d'abord dans ces livres du Pentateuque, dans la Torah, et pas seulement dans le décalogue, mais dans l'ensemble. Ensuite, Jésus, dans son dialogue avec les pharisiens, reviendra toujours à la Torah quand il enseignera ses disciples. Il leur dira, vous avez entendu qu'il a été dit par les rabbins, ceci et cela, les rabbins vous ont dit ci, les rabbins vous ont dit ça, mais moi je vous dis, et le moi je vous dis de Jésus se rapporte toujours à la Torah, à ce que dit la Torah. Parce que le sens de la loi de Dieu, le sens de la Torah de Dieu, les pharisiens l'avaient transformé, l'avaient détourné, l'avaient faussé. Et le « moi je vous dis » de Jésus se rapporte toujours à la Torah, à ce que dit la Torah. Parce que le sens de la loi de Dieu, le sens de la Torah de Dieu, les pharisiens l'avaient transformé, l'avait détourné, l'avait faussé. Alors Jésus veut qu'on revienne à la loi de Dieu, et il montre que cette loi de Dieu, ça n'est pas une loi qui ne vise que l'extérieur, mais que c'est une loi qui va très très profond. Vous savez, le décalogue, on dit quelquefois le décalogue. Le décalogue, remarquez, c'est une sorte de sommaire de la loi de Dieu. De même que le sommaire qu'en donne Jésus, c'est un sommaire du sommaire. Mais, je dirais, c'est pas parce que nous avons le résumé ou le sommaire de quelque chose que cela doit nous dispenser de voir l'ensemble de ce quelque chose. Jésus a donné un sommaire du décalogue. Mais le décalogue lui-même est un sommaire. Et il faut voir le reste, tout le reste de la loi de Dieu. Et je dirais, on ne peut vraiment comprendre en profondeur ce qu'est la loi de Dieu qu'en lisant l'Écriture sainte tout entière. Vous voyez, je répète encore, toute l'Écriture est évangile et toute l'Écriture est loi. Et ça va ensemble. Et il nous faut prendre en compte tout cela. En fait, d'ailleurs, la loi de Dieu a joué un rôle beaucoup plus considérable qu'on ne l'imagine dans le droit, en tout cas en Occident. Dès le départ, dès le début, il y a eu une influence de la loi de Dieu, de la loi révélée, et en même temps, donc, aussi bien la morale révélée que le droit révélé, il y a eu une influence sur tous les droits des peuples. Faudrait ici, ce serait une trop longue histoire, mais c'est intéressant de voir de près cela. Et d'ailleurs, de grands savants, de grands juristes reconnaissent cela. De grands juristes, quand il leur reste encore quelque chose de chrétien, parce que c'est curieux, comme souvent, les historiens du droit aujourd'hui offusquent, cachent l'influence que la foi chrétienne, que la foi biblique a eue sur le droit. Mais il l'a eu dès le départ. Par exemple, il est sûr que les canons des premiers conciles, je pense à celui d'Ancyre en 314, celui de Nicée en 318, ces canons de l'Église ancienne, qui étaient d'ailleurs rédigés par les pères de l'Église ancienne, reprenaient des éléments de la Torah. Et ensuite, cela a continué. Je ne veux pas parler du code de Théodose, qui a été une dominante en Occident de 313 jusque vers la fin du 5e siècle, parce que ce code de Théodose n'a emprunté que très peu de choses au droit révélé. Mais on a le corpus juris civilis, c'est-à-dire le code de droit civil de Justinien, qui est de 534, et là, dans ce code, c'est l'influence a été considérable du droit biblique sur le droit de l'Empire. Au IXe siècle, en Angleterre, Albert le Grand a cherché à inscrire dans le contexte anglais toute une partie du droit révélé dans la Torah. Et le Moyen-Âge, là, les auteurs sont d'accord, a eu une très forte influence de ce droit révélé. Si bien que tout le meilleur du courant du droit en Occident est venu, finalement, du droit biblique. C'est Raymond Charles, qui était un conseiller à la Cour de cassation, qui a rédigé une histoire du droit pénal, et bien dans cette histoire du droit pénal, il montre non seulement l'imprégnation sur les codes du Moyen-Âge de l'éthique chrétienne, mais il dit que c'est vraiment tout un éclairage qui a été apporté par le droit biblique sur le droit des pays occidentaux au Moyen-Âge. Et on pourrait ainsi poursuivre, je ne le fais pas, mais c'est intéressant de voir que lorsque l'Église ose prendre en main l'Écriture, ose dire ce que dit l'Écriture, ose proclamer ce que dit l'Écriture, au sens de la loi, et donc au sens de la morale et du droit, cela est un bienfait pour les hommes. Un bienfait pour les hommes, même si ça n'est que pour leur vie temporelle, quelquefois, Et alors, pour les chrétiens, alors c'est l'essentiel, c'est très essentiel pour leur vie temporelle. Si je suis dans la communion de Jésus-Christ, mais alors l'enseignement de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ m'importe. Elle m'importe. Les commandements de Jésus-Christ m'importent. Et ce que la parole de Dieu peut apporter dans le domaine de la morale et du droit, je ne dois pas le négliger. Voyez-vous, je pense que nous sommes souvent, comme chrétiens, pusillanimes. Nous n'osons pas communiquer à nos contemporains, nous n'osons pas communiquer à nos peuples ce dont nos peuples ont besoin. Et ce dont les peuples ont besoin, ce dont tous les hommes ont besoin, c'est à la fois de l'Évangile et de la loi de Dieu. Et je dirais, on ne peut bien leur faire comprendre, j'allais dire, l'engrenage qu'il y a entre l'Évangile et leur vie de tous les jours, qu'en prenant à cœur leur situation telle qu'elle est. Je me souviens que lorsque j'étais étudiant en théologie, on m'avait appris, ou on avait cherché à m'apprendre, que c'était très important, lorsqu'on faisait une visite à quelqu'un, de ne pas parler de la pluie et du beau temps, de ne pas parler de la question du travail, des occupations, des finances, des loisirs, etc., des gens, mais il fallait aller à l'essentiel. Eh bien, je dirais, je crois que on m'a donné là une mauvaise leçon. Il a fallu que je me dégage de cette mauvaise leçon. Dans une conversation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme chrétien, tout est bon pour en parler. Même la pluie. Quand quelqu'un vous dit, oh, il fait bien mauvais aujourd'hui, il ne se dit pas malheureux. Hein, ben c'est le moment d'accrocher en parlant de la providence de Dieu et de la manière dont on doit recevoir aussi bien la pluie que le beau temps. Quand quelqu'un commence à vous parler de son travail, mais on est en plein dans le sujet. Ah, c'est très intéressant de savoir quel est le travail de quelqu'un. Parce que justement, Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il ait un travail, pour qu'il ait un métier. Ça importe. Si bien que, je ne dirai pas, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, ne parlez pas de la pluie, du beau temps, du travail, des loisirs, etc., etc. Parlez de l'essentiel. Je dirais, mais s'il y a une contradiction à dire ça, on ne peut pas parler de l'essentiel sans parler de tout. Et on ne peut parler de rien sans parler de l'essentiel. Tout est bon. Tout est bon. D'ailleurs, je dirais, l'apologétique, d'ailleurs c'est la même chose finalement, l'apologétique que l'évangélisation. Enfin, moi je suis de ceux qui pensent que c'est la même chose. Quand on évangélise, on fait de l'apologétique, et quand on fait de l'apologétique, de la bonne bien sûr, on évangélise. Mais je dirais, il faut y aller à propos de n'importe quel sujet. Ah, il y a des sujets sur lesquels nous sommes incompétents, dans lesquels quelqu'un, il vaut mieux nous taire. Mais je dirais, on peut parler de ce dont les gens vous parlent. On peut partir de ce dont les gens vous parlent. Parce que les gens sont dans un monde de Dieu, ils sont dans le monde créé par Dieu, ils sont dans le monde dont Dieu est le recteur. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu, même pas, dit Jésus avec un peu d'humour, même pas un cheveu qui tombe ne peut tomber de notre tête sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Tout est en rapport avec Dieu. Tandis qu'à entendre la leçon de mon professeur de théologie, rien n'a de rapport avec Dieu. Et alors on peut se demander, mais alors finalement, ce Dieu qui n'a rapport avec rien, quelle peut être l'importance qu'il a pour nos interlocuteurs? Si Dieu n'a de rapport avec rien, j'allais dire, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est justement, Dieu a rapport avec tout. Et on peut parler de n'importe quoi, ça importe à notre relation avec Dieu. Aussi bien de parler d'un film de cinéma, aussi bien de parler d'une bagarre à l'issue d'un match de football. Tout a un rapport avec Dieu. Tout a une relation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, est en même temps celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et là, j'aime bien insister. On pourrait penser que Jésus-Christ, en effet, oh, c'est formidable de connaître Jésus-Christ, il règne au ciel. Mais Jésus-Christ ne règne qu'au ciel. Quel est son rapport avec nous? Mais ce qui est important, c'est qu'il règne au ciel et sur la terre. Le règne de Dieu. Ah, le règne de Dieu au ciel. Et tous les jours, nous disons cependant que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Eh bien, c'est ce caractère terrien de la loi qu'il nous faut saisir tout à nouveau. L'Évangile, mais oui, 100 fois oui, je le répète, c'est mon avertissement de début, surtout ne lâchons pas l'Évangile, ne voyez pas dans mon propos, mais l'idée, d'ailleurs on ne peut pas lâcher l'Évangile, ou plutôt c'est lui qui ne nous lâche pas. Et il faut, bien sûr, mais la loi, et la loi est terrienne, la loi est quotidienne, la loi importe à chaque chose de notre vie, à chaque moment de notre vie, à quoi que nous fassions, et alors à ce moment-là on peut rendre gloire à Dieu. J'allais dire, je voudrais choquer personne, mais même en appréciant un bon petit Beaujolais nouveau, à condition d'être modéré, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. Faites tout à la gloire de Dieu. Tout importe. Et c'est ça qui fait que notre vie chrétienne, normalement, devait être une vie, j'allais dire, d'étonnement en étonnement, sinon toujours d'émerveillement en émerveillement, parce que tout est à nous. Oh, c'est formidable. Mais nous sommes à Christ, et Christ est à Dieu. Mais tout est à nous. Et dans le jardin d'Éden, tous les arbres du jardin étaient à l'homme. L'homme était invité à tout cela, sauf une seule chose, définir la morale et le droit. Définir le bien et le mal, définir le juste et l'injuste. J'en viens à une dernière partie de mon discours, et là aussi, j'espère vous en montrer l'importance. J'aborde ce qu'on peut appeler d'une façon générale, en quelque sorte, la question politique. La question politique. Dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, le magistrat, c'est-à-dire l'État, reçoit de Dieu mission de punir le malfaiteur et de protéger les honnêtes gens. Lorsqu'un État, lorsque des magistrats n'appliquent pas cette charge dont ils sont investis, ils deviennent passibles du jugement de Dieu. Et la loi de Dieu concerne tous les magistrats. Non seulement les magistrats en Israël, mais les magistrats de toutes les nations. Et ceci est très net. Reprenez votre Ancien Testament, vous verrez que Dieu parle toujours du droit et du juste et de l'injuste, aussi bien en ce qui concerne les autres nations que les nations d'Israël. Je dirais, il n'y a pas plusieurs morales et il n'y a pas plusieurs droits pour la simple raison qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il y a une seule morale et il y a un seul droit. Et je prends l'exemple du livre d'Amos, il me vient tout à coup à l'esprit. Le livre d'Amos, c'est très curieux de voir le livre d'Amos. On voit le jugement de Dieu qui commence par les nations qui entourent Israël. Et puis la spirale se restreint de plus en plus, et puis finalement, c'est Israël et Juda qui sont visés. Mais Dieu, dans sa parole prophétique, s'en prend au péché, au crime, aussi bien des nations autour d'Israël que d'Israël lui-même. Et lorsque l'apôtre saint Paul écrit la lettre aux Romains, au début du chapitre 13 des Romains, il montre bien la même chose. Il ne s'agit pas, aux yeux de Paul, manifestement, d'un État chrétien. Il s'agit de l'État romain, il s'agit de l'Empire romain. Eh bien, il est dit là que le magistrat de l'Empire romain a en main le glaive, l'épée de Dieu, pour punir les malfaiteurs, pour faire qu'il y ait une justice, une certaine justice qui s'exerce parmi les hommes, pour que la société, si j'ose dire, soit vivable. On m'a dit, avant que j'arrive à Paris, fais attention, tu commences à être vieux, te promène pas tout seul dans les rues, bon. Et, en fait, bon, ben, jusqu'à présent, du moins, ça s'est bien passé. Mais, il faut bien voir que nous ne pouvons vivre en société, quelle que soit la société, quelle que soit l'époque, s'il n'y a pas, par la grâce de Dieu, au service de Dieu, des magistrats, c'est-à-dire un pouvoir ayant en main l'épée, c'est-à-dire la force armée, et capable d'assurer, je dirais, une certaine justice et une certaine sécurité. C'est une grâce de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, dans ce passage, l'apôtre saint Paul donne à l'État, aux magistrats, deux titres qui sont presque des titres religieux. Le magistrat est liturge de Dieu. Hein? Il concourt à la liturgie de Dieu. Et il est, c'est le mot qui est employé, liturgos, et il est aussi le serviteur de Dieu, diakonos de Dieu. C'est formidable quand on pense à cela. Mais Dieu l'a voulu, parce qu'il a voulu que le péché soit limité, que l'intensité du péché et des crimes soit limitée. Il a voulu que le monde soit quand même vivable. Et Dieu a voulu qu'il y ait partout sur la terre, à toute époque, en tout lieu, qu'il y ait un certain ordre légal, qu'il y ait donc un certain droit, une certaine justice. Et nous devons être reconnaissants. Et c'est pour ça d'ailleurs que les apôtres invitent tellement les chrétiens à prier pour les autorités. Seulement, évidemment, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé dans l'histoire, et nous l'avons connu il y a quelques dizaines d'années, c'est lorsque celui qui est ministre de Dieu, pour assurer un minimum de justice et de sécurité, se met à devenir un pouvoir fondamentalement injuste. Il devient alors la bête dont parle Apocalypse 13. Et on a la menace de la bête. Nous avons la menace de la bête autour de nous. Mais je dirais, si les chrétiens n'annoncent pas la loi de Dieu, si les chrétiens ne disent pas qu'il y a une morale de Dieu et qu'il y a un droit de Dieu, et que c'est pour le bien du genre humain sur la terre, eh bien, l'Église ne remplit pas sa mission. L'Église doit être la lumière des nations sur ce point aussi. Elle doit avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Nathan a eu le courage de parler à David. Mais croyez-moi, les pères de l'Église, comme Ambroise, comme Chrysostome, l'ont fait en leur temps. Il y a des moments où il faut que l'Église dise un certain nombre de choses d'une façon claire. Moi, j'avoue que je suis de ceux qui regrettent profondément qu'en 1975, ou plutôt dans les années qui ont précédé la fameuse loi Veil, il n'y ait pas eu unanimité des chrétiens en France, une parole claire de l'Église en France pour dire que l'avortement est un crime, ce qu'elle est. Quand on pense que plus d'un million d'enfants sont morts depuis le vote de cette loi, c'est quelque chose de monstrueux. Or, ou bien les chrétiens pactisent, ou bien les chrétiens se taisent, ce qui est une façon de pactiser, eh bien non. Il y a des moments où l'Église, devant certaines choses, doit dire non. Il faut que l'Église, à certains moments, dise « ce n'est pas possible ». Tu ne remplis pas ton rôle d'État. Le rôle de l'État, c'est de protéger des innocents et de punir des coupables, et non pas de punir des innocents. Oui, nous sommes devant le devoir politique des chrétiens. Nous avons un devoir politique. Vous le savez, vous le voyez, Il ne s'agit pas du tout pour un chrétien de s'inscrire à un parti politique et tout ça. Non. Pour ma part, d'ailleurs, je crois que c'est très dangereux dans la mesure où, à l'heure actuelle, presque tous les partis politiques sont des partis plus ou moins humanistes, où l'on pratique la religion de l'homme, et c'est pas ça. Il faut que l'Église ait en main la parole de Dieu et annonce en bouche la parole de Dieu, la parole loi de Dieu. Mais il faut pour cela pouvoir dire nous-mêmes le psaume 119. Il faut que la loi de Dieu fasse nos délices. Il faut qu'elle fasse nos joies. J'espère que la plupart d'entre vous, et il faudrait que ce soit tous ici, savent qu'ils ne sont plus, à cause de Jésus-Christ, sous la loi de la condamnation et de la mort. Mais que, libérés par Jésus-Christ, ils peuvent maintenant montrer à Dieu leur reconnaissance pour le salut qu'ils ont reçu, en cherchant jour après jour à obéir à la loi de Dieu. En sachant d'ailleurs que même au terme de la vie qui serait la plus sainte, nous serions obligés de confesser que nous sommes de pauvres pécheurs et que nous sommes sauvés par grâce. Mais il nous faut quand même essayer jour après jour de suivre au plus juste, au plus près, la loi de Dieu, et j'allais dire la loi de Dieu dans ses détails. C'est Jésus-Christ qui dit que pas un trait de lettre de la loi, pas un iota, c'est-à-dire pas la plus petite lettre de la loi, pas un trait de la lettre de la loi ne passera jusque passe le ciel et la terre. Tant que nous sommes ici-bas, sur la terre, la loi de Dieu nous enseigne, nous devons marcher. Et cette loi de Dieu, si nous la méditons dans la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Elle va de plus en plus devenir intérieure. C'est-à-dire que Dieu va peu à peu marquer, inscrire cette loi dans notre cœur. Mais il ne va pas inscrire dans notre cœur une autre loi que la loi qu'il a révélée. C'est cette loi qui est dans l'Écriture Sainte, qui est l'Écriture Sainte, qui va devenir chair de notre chair et os de nos os. Peu à peu, nous devons être pénétrés par la loi de Dieu, si bien que nous n'avons plus à nous référer à la loi de Dieu, parce que, en dedans de nous, elle sera inscrite. Mais faisons attention, il ne s'agit pas de dire que nous aurons une sorte de loi intérieure qu'inscrit en nous le Saint-Esprit, en nous, si nous nous passons de la parole de Dieu. Non, elle ne sera inscrite dans notre cœur que si nous la recevons du Saint-Esprit dans la Sainte Écriture qui est la parole de Dieu. Elle ne deviendra cordiale en nous, elle ne sera cœur en nous, inscrite dans notre cœur en nous, que si nous la recevons de la Sainte Écriture. Ce qu'elle peut être, tant qu'on ne s'est pas converti à Jésus-Christ, et tant qu'on n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ, c'est qu'elle peut être une lettre qui tue, une lettre qui condamne. Mais comme le disait un de mes amis, si la lettre tue, c'est en tout cas qu'elle n'est pas morte. Alors, il faut bien saisir cela, l'importance de cela. C'est capital. C'est capital. Nous sommes à un moment où les chrétiens doivent entrer en politique, où les chrétiens doivent entrer dans le quotidien, où les chrétiens doivent s'intéresser à tout, parce que tout est à eux, parce que tout est en rapport avec Dieu, parce que rien n'arrive hors la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons sur la terre de ses enfants, et que nous vivions sur la terre comme ses enfants. Que nous soyons ses enfants dans notre couple, que nous soyons ses enfants dans nos familles, que nous soyons ses enfants dans notre travail, que nous soyons ses enfants dans notre commune, dans notre cité, dans notre pays, que nous soyons ses enfants dans nos recherches scientifiques ou dans nos prouesses artistiques, si nous en avons, j'en ai pas. Et nous devons être les enfants de Dieu avec tous les dons que Dieu nous a faits dans tous les domaines de l'existence, sans en accepter aucun. C'est un de mes maîtres en théologie, je ne l'ai jamais connu parce qu'il est mort, j'étais bien jeune, c'était le théologien réformé Abraham Kuyper qui disait d'une façon que je trouve très illustrative, il n'y a pas sur la terre, il n'y a pas dans le domaine de l'existence de l'homme un seul petit domaine dont Jésus-Christ ne dise « c'est à moi ». Tout est à nous, mais nous sommes à Christ. Tout est à nous, pour que nous vivions, en quelque domaine que ce soit, dans la fidélité à cette loi de Dieu dont le psalmiste se réjouissait. Il y a une parole dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 33 et au verset 22, qui a été inscrite à la constitution de certains États américains il y a déjà trois siècles et plus. Ce verset d'Ésaïe 33, 22 dit « Le Seigneur est notre juge. Le Seigneur est notre législateur. Le Seigneur est notre roi. C'est lui qui nous sauve. » Eh bien, je voudrais que nous inscrivions ce verset, en quelque sorte, en chacun de nous, ce soir. Oui, le Seigneur est celui qui nous sauve. Mais parce qu'il est celui qui nous sauve, et en même temps qu'il est celui qui nous sauve, il est le juge, il est le législateur, il est le roi. C'est une manière de dire, Jésus-Christ n'est pas seulement le sauveur par sa croix, mais il est aussi le Seigneur par sa loi.